Parole protestante sur RCF Anjou.
Bonjour chers auditeurs, c'est Jean-Pierre qui vous présente cette émission en compagnie de Daniel et Bernard Delépine. Nous sommes tous trois actifs à l'église protestante baptiste d'Angers, dite Communauté du Colombier. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Comme chaque premier dimanche du mois, nous vous proposons un entretien sur la prière. Aujourd'hui, nous parlerons des mages venus d'Orient pour voir et adorer Jésus. Nous verrons ensemble qui sont ces mages, quelle est la signification de leur cadeau et qu'est-ce que ce récit peut nous enseigner à nous aujourd'hui. Dites-moi, on a souvent entendu parler des mages comme étant un mythe qui agrémente poétiquement la naissance de Jésus. Quel est votre avis sur le sujet, Bernard ?
Ah ben, des quatre évangiles, il n'y a que Matthieu qui en parle. Peut-être parce qu'il s'adresse plus spécifiquement au peuple juif. Mais puisque vous me posez la question sous l'angle de la véracité du texte, ou si celui-ci serait juste un beau conte, je vous ferai remarquer au passage que Matthieu était un homme instruit, certainement plus que la moyenne, puisqu'il était collecteur d'impôts et donc comptable. Si je le précise, c'est simplement pour appuyer le fait que l'évangile qui porte son nom est une sorte de reportage, de documentaire, écrit par un érudit de l'époque. Maintenant, si on vient parler des mages, ce ne sont pas des magiciens, rien à voir non plus avec les mages ou les rebouteux de nos campagnes. Ici, on parle de scientifiques, probablement des astronomes qui étudient les étoiles, donc. Ce sont des personnes très instruites, cartésiennes, qui ont su voir ce qu'il se passait d'extraordinaire, voire d'exceptionnel dans la voûte céleste. L'astronomie, vous savez, est une science très ancienne. On lit d'ailleurs dans le livre du prophète Daniel qu'il en existait des astronomes, mais franchement en grand nombre à Babylone. Moi, ce qui m'impressionne en tout cas, c'est qu'ils aient été tellement touchés, bouleversés par ce qu'ils ont observé, qu'ils ont voulu voir, j'allais dire de leurs propres yeux, qui était ce roi exceptionnel qui venait de naître. Alors Jean-Pierre, ne me demandez pas ce qu'ils ont vu et comment ça s'est passé, car moi je suis pasteur et non pas astronome.
Merci Bernard. Daniel, vous souhaitez ajouter quelque chose, je vois.
Alors oui, c'est juste pour compléter ce que dit Bernard. Ben, il n'est pas étonnant que ces mages et ces astronomes aient pu lire quelque chose d'extraordinaire dans les étoiles. Parce que dans le psaume 19, on peut lire « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains ». Et il y a aussi ce texte prophétique du livre des Nombres, et là c'est Moïse qui dit « Je vois ce qui arrivera, mais ce n'est pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais ce n'est pas pour tout de suite. Une étoile, un astre se lève parmi ceux qui sont nés de Jacob. Un chef se lève au milieu du peuple d'Israël. » Alors vous voyez, Jean-Pierre, ces mages viennent confirmer la réalisation de ces prophéties d'antan. Et pour ça, il fallait des scientifiques qui regardent au ciel et sondent les astres.
C'est très intéressant. Je n'avais pas encore vu ce récit sous cet angle. Au point où nous en sommes, pourrait-on lire le texte de l'évangile que vous appelez le reportage de Matthieu, Bernard ?
Oui, oui. C'est au chapitre 2. Je vous lis. Hein. Jésus naquit à Bethléem à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des spécialistes des étoiles vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Alors, permettez-moi, je saute quelques versets. « Et après avoir reçu les instructions du roi Hérode, les mages partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient. Elle allait devant eux et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ah, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant. Puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'encens, de l'or, de la myrrhe.
C'est sur la base de ce texte que nous parlons des trois rois mages. Daniel, qu'en pensez-vous ?
Oui, bien sûr, et le texte de Matthieu ne dit jamais que ce sont des rois, ni d'ailleurs qu'ils étaient trois. Ce n'est pas parce qu'il est mentionné trois types de cadeaux qu'ils étaient trois. On sait seulement qu'ils étaient plusieurs, qu'ils venaient d'Orient, donc probablement de Babylonie ou de Perse. c'est-à-dire à peu près de l'Irak et de l'Iran actuel. En fait, on est tellement influencé par la tradition qu'on pense que c'est juste, mais peut-être sans le vouloir. Vous appuyez, Jean-Pierre, sur un point dont peu de personnes ont conscience. C'est la première adoration à Jésus de la part de païens. Ça, c'est extraordinaire. Ce sont nos précurseurs et c'est assez fort pour le faire remarquer. Les premiers païens qui ont adoré Jésus étaient des scientifiques, des personnes ayant une grande connaissance intellectuelle, une sagesse grandiose et qui vivaient dans les pays actuellement musulmans. Alors je trouve ça véritablement bluffant, sans faire de prosélytisme aucun. Il serait tellement beau que les habitants de ces pays puissent voir comment leurs ancêtres, ces mages astronomes, voir comment la vraie nature de Jésus, le Messie et le Christ.
Merci Daniel. Nous avons dit en préambule de ce partage que nous proposions, comme chaque premier dimanche du mois, une réflexion sur la prière. Je ne voudrais pas vous offenser, mais pour le moment, nous n'avons pas encore parlé de la prière, hein, sauf erreur.
Ah oui, mais vous savez, Jean-Pierre, avant d'aller plus en profondeur, il faut toujours planter le décor, comme on dit, au risque d'aller trop vite et de ne pas nous faire comprendre par nos auditeurs. Si nous n'en avons pas encore parlé directement, la prière était quand même implicite, hein. Nous avons déjà évoqué que ces mages avaient non seulement la science, mais aussi un cœur ouvert pour voir le surnaturel divin. Je vais ne pas vous raconter ma vie, mais moi, lorsque je vois à la télé des reportages avec des voûtes célestes à vous couper le souffle, ben, je trouve qu'on ne peut être qu'en adoration devant celui qui a créé ces cieux. J'ai entendu d'ailleurs un jour le grand physicien Hubert Reeves répondre à une question. Quelqu'un lui posait justement celle-ci. « Croyez-vous en Dieu ?» Et il a répondu « Moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'univers que nous connaissons ne s'est pas fait tout seul. » Alors, les textes bibliques ne le disent pas explicitement, mais tout de même, ces hommes avaient foi, en tout cas au Dieu créateur, et voyant probablement une étoile se former, ils ont fait le déplacement pour adorer Jésus. La prière. C'est déjà de reconnaître Dieu dans la création de l'univers et de l'adorer pour sa grandeur. J'ose même dire que la prière est déjà dans leur marche vers Jérusalem, puisque on lit qu'ils étaient en grande joie, enthousiastes même de revoir l'étoile jusqu'à Bethléem. Alors voilà, si je me permets d'imaginer la scène, je dirais que les mages se dépêchaient même d'aller voir le roi qui venait de naître, tout en priant peut-être le Dieu de l'univers de leur faire faveur et de faire réussir leur voyage. Si ça, c'est pas de la prière déjà.
Oui, mais si je peux me permettre, il y a quand même plus évident encore.
Et quoi donc ?
Ben, la gestuelle, on a dit tout à l'heure qu'il l'avait adoré, il s'était mis à genoux dans le texte que Bernard a lu tout à l'heure aussi. Donc ils sont mis à genoux pour adorer l'enfant. Et puis, il y a la nature des cadeaux à porter.
Très bien, attendez, on en parle juste après ça.
Parole protestante sur RCF Anjou.
Vous êtes toujours sur RCF dans l'émission Parole protestante. Nous sommes toujours avec Daniel et Bernard de l'église protestante du Colombier pour évoquer l'adoration des mages à Jésus. Daniel, vous nous disiez qu'il y avait des signes criants de prière et d'adoration de la part de ces mages. Pourriez-vous développer un peu ?
Oui, bien sûr, je disais que ceux-ci s'étaient déjà mis à genoux devant l'enfant, ce qui est une forme d'adoration sans équivoque. Eux, les grands mages savants, les voir à genoux devant un enfant, de plus un étranger, c'est surréaliste. Bon, c'est dire combien ils sont conscients que cet enfant est plus grand qu'eux. Je trouve ça touchant. Ils sont humbles, ces gars, malgré leur grandeur. Et puis, il y a la nature, donc, de leurs cadeaux. Vous pouvez pas imaginer à quel point ces cadeaux sont prophétiques.
Mmh. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Que ce ne sont pas que des cadeaux. Mais pour chaque type de cadeau, il y a une annonce prophétique du ministère de Jésus.
Alors dites-moi en plus, Daniel, maintenant que vous avez suscité ma curiosité.
Alors, il lui offre de l'or. L'or parle de royauté. Toutes les couronnes du monde entier sont généralement en or. C'est le métal des rois par excellence, et cela depuis la nuit des temps. Et la Bible nous parle de cette royauté de Jésus, non comme le roi Salomon qui croulait sous l'or, mais comme roi d'un autre royaume. Ainsi, il répond à Pilate qui le questionne sur ce sujet. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. En réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Mais Pilate ne s'y trompe pas, puisqu'il fait ajouter à l'inscription sur la croix de Jésus « Celui-ci est le roi des Juifs ». Ça vient directement en écho au cadeau en or qu'il reçoit de la part des mages. Bon, je ne vais pas faire trop long, mais j'ajouterai tout de même que plusieurs versets des Écritures parlent de Jésus comme étant le roi des rois. Je ne peux pas tous les citer, mais celui d'Apocalypse 19 est très explicite. Il est dit « Puis je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ».
Merci Daniel. Bernard, vous savez quelle est la signification de l'encens ?
Ah oui, ben dans le Premier Testament, ou Ancien Testament disent certains, on lit qu'il y avait continuellement de l'encens qui brûlait pour Dieu. Il est même précisé que c'était de l'encens d'une agréable odeur à Dieu. D'ailleurs, ce parfum qui brûlait dans le tabernacle avait une composition unique que nous ne connaissons pas vraiment complètement, hein, car en plus des ingrédients que mentionne Exode 30, il y en avait d'autres qui étaient dits oralement de génération en génération afin qu'ils ne soient pas recopiés. Cet encens ne pouvait en aucun cas être brûlé pour une autre circonstance. L'encens était unique, d'ailleurs comme Jésus est unique pour Dieu. Le côté prophétique de cet encens, offert par les mages, nous parle du fait que Jésus est unique. Il fait tout son plaisir. Rappelez-vous ce que Dieu dit au sortir du baptême de Jésus, et puis pareil d'ailleurs sur le sermon de la montagne, comme on dit, ou plutôt de la transfiguration. Il est dit, et c'est Dieu qui parle, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. Donc le cadeau de l'encens par les mages prophétise le plaisir que Dieu, le Père, prend dans la personne de Jésus. Et d'ailleurs, entre nous, Jésus lui-même est aussi tout notre plaisir, en tout cas le mien.
Et la myrrhe, alors, Daniel ?
Alors, la myrrhe, elle nous parle de la mort de Jésus. C'était une composante des aromates pour embaumer les corps des défunts. Ce cadeau prophétise la mort de Jésus. Souvenez-vous, Jésus a déclaré « Personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même ». Et puis il dit aussi qu'au moment de son arrestation, s'il l'avait ordonné, des milliers d'anges seraient venus le délivrer. Donc Jésus a donné librement sa vie pour que, morts spirituellement que nous étions, il nous inocule sa vie éternelle, afin que nous vivions durant l'éternité avec lui et le Père.
Bah, vous voyez Jean-Pierre, nous sommes... dans ce que dit Daniel et moi-même, nous sommes très très loin des cadeaux que l'on offre nous aujourd'hui à Noël. Hein. Ces mages, savants et scientifiques se déplacent sur une très grande distance suite à une manifestation céleste hors du commun afin de se mettre à genoux devant un enfant qui s'appelle Jésus pour l'adorer. Et en plus, ils lui offrent des cadeaux qui ont une portée prophétique, qui parlent du ministère de Jésus et aussi de notre destinée éternelle. Je trouve que ça aurait été dommage de passer à côté d'eux sans s'en rendre compte, non ? En tout cas, ça doit nous amener nous-mêmes à adorer Jésus.
En effet, Bernard, merci pour cet entretien très intéressant et méconnu de beaucoup. Juste une dernière question. Dites-moi, Daniel, à l'église du Colombier, faites-vous quelque chose à Noël ?
Eh bien, cette année, nous avons eu une proposition pour faire une célébration originale avec un petit déjeuner ouvert à tous, croyants ou non. Et il n'est pas impossible qu'une famille sud-coréenne nous fasse un petit concert. Il y aura des textes sur la naissance de Jésus, des chants et peut-être d'autres surprises. Et donc, il faut s'inscrire en allant sur notre site église-angers.fr.
Merci pour cette précision et merci à vous deux. Et si je devais retenir deux idées fortes de nos échanges, ce serait que l'Éternel, Dieu, notre Père Céleste, ne laisse rien au hasard, pas même les signes dans le ciel. Et qu'à l'instar des mages, nous sommes aussi appelés à reconnaître Jésus comme étant le roi des rois et à l'adorer. Avant de poursuivre cette émission, nous vous proposons une pause musicale avec le chant Christ est roi de Sylvain Frémaux. Restez à l'écoute, notre émission se poursuit dans quelques instants.
Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité.